États-Unis, anatomie d'une démocratie.
3 ans après la prise du Capitole, la démocratie américaine est fragile, violente et au bord du chaos. Kamala Harris, comme Donald Trump, prétendent vouloir la sauver. Mais quelle est la véritable histoire de cette démocratie? Un modèle ou une utopie jamais réalisée?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Romain Huret.
Épisode 4. 1968, une guerre civile culturelle.
Certains disent que notre société est malade. Nous sommes malades, c'est vrai, mais pas comme ils l'entendent. Nous sommes malades de ce qui a trop longtemps été permis dans cette nation. Richard Nixon, le 29 septembre 1968. Romain Huret, c'est important ça. On est avec Richard Nixon en pleine campagne électorale, qu'il va emporter dans quelques semaines. On est le 29 septembre, c'est pour le début novembre. De quoi il parle? Pourquoi est-ce qu'il parle d'une société malade? Et qui accuse-t-il de la rendre malade?
Avec cette citation, Richard Nixon ouvre le procès de l'Amérique des années 60 et d'une génération d'étudiantes et d'étudiants qui vont se mobiliser dans la foulée du mouvement après les droits civiques et qui vont demander une autre Amérique. Une Amérique
plus juste,
plus émancipée sexuellement, plus ouverte aux autres, plus démocratique, qui met en avant les identités de chacun. Le grand slogan à la mode des années 60, c'est « Personal is politics ». Ce que je vis, ce qui est mon être, hein, c'est de la politique. Donc mon identité sexuelle, ma couleur de peau, tout ça, ça fait partie de la politique et ça va être politisé.
La demande du droit à l'avortement.
Droit à l'avortement. L'autre grand mot à la mode, c'est authentique. On veut une société plus authentique.
Ça, c'est marrant que tu dises ça, parce que ceux qui ont écouté les épisodes jusque-là ont entendu Mark Twain demander une société plus authentique. Même Charles Lindbergh. En fait, est-ce que l'authentique existe aux États-Unis? On a l'impression que c'est une espèce de construction mentale d'une Amérique qui n'a jamais vraiment existé, que chacun s'y raccroche et que c'est l'argument ultime pour remporter la majorité des idées.
Oui, tu as raison. Hein, et il y a des liens dans les années 60. Ce qu'on appelle authentique, c'est une Amérique qui n'a rien à voir avec la vie qu'on propose aux plus jeunes, une costume-cravate dans des grandes entreprises, des grands groupes, etc. Avec, à l'époque, on avait les cheveux courts, la cravate, etc. Il dit ça n'a rien à voir avec l'Amérique des pionniers, l'Amérique des pères fondateurs.
C'est ça, on y revient toujours.
On veut un rapport à la nature, à notre corps, à la sexualité, etc. Et ils vont se laisser pousser les cheveux, prenez l'amour libre. Et ils vivent parfois dans des communautés, recréer des expériences comme les pionniers de communautés nouées par des liens identitaires. Alors, ça ne plaît pas à Nixon. Oui. Nixon, ce n'est pas du tout son Amérique. Nixon, il aime les hiérarchies, la verticalité.
Il n'aime pas les communistes.
Il n'aime pas les communistes. Il aime les gens en costume.
Comme il est tout le temps, lui, d'ailleurs.
Tout le temps en costume.
J'ai lu un très bon livre d'un certain Romain Huret qui raconte à quel point Richard Nixon est tout le temps en costume. C'est-à-dire que, parce qu'il sent bien que s'il enlève son costume, c'est un type qui a une sale tête, qui a l'air d'être un peu louche. Il sait que c'est le costume qui fait l'homme.
C'est le costume qui fait l'homme et on se moque de lui parce qu'on le trouve un côté représentant de commerce, enfin bref, ou vendeur de voitures.
Même si on aime beaucoup les vendeurs de voitures qui nous écoutent.
Mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout la vision qu'a Nixon... en 1968, et il fait campagne autour d'un thème très important qui est l'Amérique silencieuse. Il dit, on a beaucoup, beaucoup vu dans les médias, dans les rues, une Amérique crier, conspuer les troupes au Vietnam, défendre les droits identitaires, etc. Et Nixon, c'est pas l'Amérique qu'il veut, et il le dit ouvertement, surtout à une période où... 68, hein, c'est une année de très grande violence aux États-Unis.
Oui, il faut rappeler quand même l'été 68.
L'été 68.
Même avril, ça commence avec les assassinats quand même. Martin Luther King, Bobby Kennedy.
Tout à fait, des assassinats donc, de grandes figures politiques, des émeutes dans les grandes villes qui démarrent en 1965 avec Watts. Et donc chaque été, les ghettos, les banlieues flambent aux États-Unis. Donc une vraie violence politique et récurrente dans le pays. Et donc,
Dans les universités aussi, sur les campus, il y a des morts sur les campus. Enfin, c'est quand même une Amérique très violente.
Très violente, avec les étudiants qui refusent pour beaucoup de partir au Vietnam, qui dénoncent les grands groupes, qui dénoncent Richard Nixon, qui dénoncent la soi-disant démocratie, et qui vont d'ailleurs inverser l'idée d'un exceptionnalisme états-unien. C'est-à-dire qu'ils vont dire le pays est exceptionnellement violent. Oui. C'est toujours exceptionnel.
Oui.
Là où d'autres disaient il est exceptionnellement pacifique, il exporte des valeurs démocratiques, les étudiants disent on est exceptionnellement violent. Et tout dans notre histoire est une chaîne ininterrompue de violence. Dès l'arrivée des premiers colons, hein, ce pays a toujours massacré, tué,
né
d'un génocide, etc. Et cette histoire-là, elle est très portée sur les campus hein, par des historiennes et des historiens qui prennent le pouvoir dans les départements d'histoire, mais qui inversent en quelque sorte le modèle, comme si on n'arrivait pas à avoir un regard un peu apaisé et non exceptionnaliste de ce pays.
Peut-être certains ont lu la BD ou le livre d'Howard Zinn sur l'histoire populaire des États-Unis, c'est ça dont tu parles ?
Oui, c'est tout à fait, c'est un grand classique. Hein, et Zinn va faire la synthèse hein, de toutes ces relectures de l'histoire des États-Unis.
Une autre histoire de l'Amérique.
Une autre histoire de l'Amérique qui n'est pas du tout l'histoire d'un Wilson ou d'un Roosevelt. Hein, une belle histoire démocratique, c'est une histoire à l'inverse.
Violente.
Hein, de violence.
Ouais, de domination.
De domination, de répression permanente.
Sauf que Nixon va gagner. Et donc, il a raison, l'Amérique silencieuse est majoritaire dans le pays.
En tout cas, il gagne. Il gagne très largement. Et c'est une surprise pour beaucoup, parce que Nixon était un peu un loser. Hein. On pensait que ce n'était pas la première fois qu'il se présente. C'est rare, les retours sont rarement couronnés de succès aux États-Unis. Donc, personne ne croyait vraiment en lui. Il l'emporte hein, de manière très tenace. Et aujourd'hui, on a un regard sur à la fois 68 et sur Nixon qui a en partie changé, puisqu'on y lit, dans cette année très mouvementée, la naissance de ce qu'on appelle les guerres culturelles. Et les guerres culturelles, aux États-Unis, dominent hein, le paysage politique depuis les années 70 hein, et démontrent l'incapacité du pays à s'entendre sur des grands sujets de société. Avortement, violence, place des femmes, et je pourrais multiplier les exemples, on voit très bien que ces sujets sont très clivants dans la société états-unienne. Là, on voit désormais qu'il y a deux Amériques qui commencent à se faire front, à s'opposer et à lutter de manière très violente l'une contre l'autre. Il y a un épisode que j'aime beaucoup citer qui se déroule à Chicago en 1979. Il y a peut-être des gens qui aiment la musique disco, qui triomphe, hein, La fièvre du samedi soir et autres films et musiques hein, qui vont faire triompher le disco, cette musique très hédoniste, très individuelle, hein, où chacun danse sur les pistes. En 1979, il y a un DJ conservateur qui va appeler les hommes essentiellement à venir brûler leurs disques dans un stade de Chicago, leurs disques disco, pour montrer son opposition à la culture que véhicule le disco, la musique disco, qui serait contraire aux valeurs américaines, valeurs hétérosexuelles, valeurs masculines, valeurs familiales. Et donc, on a des hommes qui viennent avec leurs disques pour brûler ces disques dans le stade de Chicago. Ce sera un auto-da-fé tout à fait étonnant, musical et disco, mais qui en dit long sur l'importance de ces guerres culturelles. Et ça va aller jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et sur la plupart des sujets de société, il est très très difficile de trouver un consensus aujourd'hui aux États-Unis.
Je reviens sur Nixon parce que ce qui est frappant quand même, c'est que lui qui se présente comme la rectitude morale, celui qui dit tout haut ce qu'une majorité silencieuse ne peut pas dire parce que, soi-disant, les médias sont aux mains des gauchistes, c'est ce qu'on dit à la fin des années 60 aux États-Unis, lui va être pris dans un scandale atroce, immonde, qui est celui du Watergate, où il y a de l'espionnage du Parti démocrate par son propre parti, qu'il a couvert sciemment. Est-ce que ça ne met pas en péril toute une rhétorique de la rectitude morale et de la justice, ça ?
Si, et ça ouvre un passage très compliqué pour la démocratie états-unienne. Hein. Le scandale du Watergate montre
la fin de l'innocence.
La fin de l'innocence, comme l'ont dit certains. En tout cas, la découverte que ces institutions, qu'on croyait parfaites, hein, qu'on croyait inventées de manière très brillante par les pères fondateurs, peuvent être utilisées à des fins totalement contraires aux valeurs états-uniennes, que la guerre juste ne l'est pas. Vietnam, hein, et que finalement on mène une guerre injuste.
Et là aussi, révélation de documents, les Pentagon Papers, de la même manière, on se rend compte qu'on nous a menti. Donc c'est intéressant, parce qu'on réfléchissait dans un épisode précédent sur la sincérité de l'explication démocratique des guerres. Là, les Américains ont la preuve qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous vend et ce qu'on fait.
Absolument, et on va relire l'entrée dans la Première Guerre mondiale, voire l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale avec des hypothèses fantaisistes sur Pearl Harbor, qui aurait été voulu, etc. On finit par avoir un regard extrêmement cynique sur l'ensemble de l'entrée en guerre des États-Unis et de cette politique impériale, en y voyant la source des maux de l'Amérique. Et finalement, on entre en guerre pour les grandes entreprises au détriment du peuple qui paye un tribut lourd et dramatique au Vietnam.
Et on va aussi revisiter l'assassinat de Kennedy.
Tout à fait, même chose. Beaucoup de théories sur la collusion des élites et sur une Amérique profondément corrompue, une démocratie gangrénée par la corruption, l'argent, et qui est finalement incapable d'être à la hauteur des idéaux des pères fondateurs. Il y a un vrai espoir. Les années 70 sont aussi portées par toute une génération de militantes et militants qui vont chercher à rendre plus transparente la vie politique, la vie démocratique, même si ils s'attendent pas du tout au raz-de-marée conservateur qui va arriver. En tout cas, il y a une vraie volonté de chez les progressistes de réinventer la démocratie pour éviter un nouveau Nixon ou de nouveaux mensonges d'État comme le fut la guerre au Vietnam.
Est-ce que tu dirais que la démission de Nixon, on connaît la photo très célèbre où il fait un geste quasiment christique avant de monter dans son hélicoptère et quitter définitivement la Maison-Blanche, est-ce que tu dirais que c'est l'un des points les plus bas de l'histoire de la démocratie américaine?
Je pense que pour le XXe siècle, c'est le point le plus bas. Il y a une vraie dépression collective. Quelque chose ne va plus dans le pays. Carter, qui prendra la Maison-Blanche quelques années plus tard, est malheureusement entré dans l'histoire pour l'un des discours les plus catastrophiques qui existe, qu'on appelle le malaise speech, où il explique que rien ne va aux États-Unis.
Et il demande de l'aide aux Américains. En général, c'est l'inverse.
C'est l'inverse, mais ouais. Quelque sorte, aujourd'hui, on voit très bien qu'il traduit une Amérique au plus bas. Le modèle économique se renverse aussi. Tout ce qui avait fait le succès de Roosevelt et de la démocratie industrielle ne marche plus.
C'est la crise économique.
Crise économique, désindustrialisation, choc pétrolier, démission du président des États-Unis, guerre au Vietnam.
Et son successeur, même pas élu, parce qu'il faut dire que Gerald Ford a d'abord remplacé le vice-président lui-même mouillé dans des scandales, et devient président quand Nixon démissionne. Donc le type n'était même pas sur le ticket présidentiel en 72, il devient président des États-Unis, et son premier geste politique, c'est de gracier son prédécesseur,
donc c'est
qui ne sera pas poursuivi.
Qui ne sera pas poursuivi, et on a vraiment le sentiment que
ça ne va pas
et que tout dysfonctionne. On a l'impression là d'être au fond du trou, et quand on est au fond du trou, il faut un sauveur, il faut quelqu'un qui réinvente, qui réenchante la démocratie, et ça sera Ronald Reagan.
Et oui, et un mot là-dessus, parce que Ronald Reagan, il réinvente la démocratie en ne parlant que de démocratie et en réutilisant à son tour l'idéal des pères fondateurs, l'idéal de cette Amérique dite authentique. On y revient tout le temps.
D'ailleurs, on y revient tout le temps. Il va être... c'est un acteur, pas très grand acteur, mais en tout cas qui a de très bonnes capacités de comédien. Il va avoir une capacité extraordinaire à formuler de manière très simple, très brutale souvent, les idéaux démocratiques états-uniens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il utilisera Star Wars que tu connais pour décrire l'Empire du Mal, donc avec des formules simples, des formules chocs qui sont préparées. On sait aujourd'hui que tout est bien millimétré, c'est un très habile communicant. Mais il réinvente, voilà, en disant il y a une Amérique éternelle, elle a toujours existé, elle a disparu avec les années 60, avec cette décadence, ce que lui appelle les ténèbres. Les années 60 font entrer le pays dans l'âge des ténèbres.
Et donc, à l'âge des ténèbres, oui.
Donc avec toute une rhétorique qui est religieuse.
Ouais.
Et donc quand il y a des ténèbres, il faut se réinventer et espérer des matins plus glorieux. Et il fera campagne sur le thème de Good Morning America, avec un spot de campagne qui
fait « It's morning again in America ». «
It's morning again in America », ouais. Et qui fera beaucoup sourire, mais qui lui permettra très largement de l'emporter en disant voilà, il faut que tout soit fait, tout soit mis en place pour que l'Amérique éternelle reste éternelle.
Et comment est-ce qu'il réinvente la démocratie à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il fait, lui, concrètement?
Alors, il fait deux choses, je pense. La première chose, c'est qu'il ne croit pas à l'État. Il pense que l'État, c'est le mal. Hein,
ah oui.
Et que tous
c'est la phrase célèbre. Hein. Mm-hmm. L'État n'est pas la solution à vos problèmes, c'est le problème.
C'est le problème. Et donc, il pense que tous les problèmes des Américains viennent de l'État. Et il n'a de cesse de dire que l'État invente des problèmes, la pauvreté, le malaise, etc. Il faut arrêter avec tout ce qu'il déteste, hein, cette invention de problèmes sociaux qui crée des bureaucraties inutiles et qui coûtent très cher aux contribuables. Donc, il va commencer à supprimer toute une série de services sociaux, hein, et de programmes de l'État et démanteler. Hein,
mais au nom de la démocratie ?
Au nom de la démocratie, en disant que les pères fondateurs, et il a en partie raison, les pères fondateurs ne croyaient pas à l'État fédéral fort, hein,
ouais,
qui investit dans le domaine économique et social. Les pères fondateurs croyaient au fédéralisme, hein, et donc toute une série de fonctions, hein, qui en France, par exemple, sont des fonctions nationales, hein, éducation, etc., sont du ressort des comtés et des États. Donc Reagan renvoie à ça, il nous dit il faut absolument que les comtés, que les États se réapproprient ces pouvoirs et l'État n'a rien à faire en la matière.
Tu évoquais une démocratie viciée de l'intérieur dans les années 70. Elle va bientôt être attaquée de l'extérieur avec le 11 septembre 2001. Voir ce que cela engage pour la démocratie américaine, c'est l'objet de notre nouvel épisode. États-Unis, anatomie d'une démocratie est un podcast original de France Inter.